aujourd'hui, une émission difficile, oui, une émission délicate, une émission sur le grand ennemi des saints. Le plus grand ennemi des saints, on a pu le voir dans la vie du curé d'Ars et dans la vie de plusieurs autres saints, mais est-ce qu'il existe vraiment ce Satan? Alors, nous allons essayer d'aborder la question de façon la plus sérieuse possible. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas de s'inquiéter. Il s'agit de savoir que le démon est beaucoup moins fort que Jésus-Christ, auquel nous croyons. Beaucoup moins fort que Dieu, dans lequel nous sommes et qui est en nous. Et nous sommes en sécurité avec Dieu, dans la paix. Il peut y avoir des troubles, des petites complications, mais jamais rien de quoi nous énerver. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, à rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une rencontre un peu particulière. Je m'inspire en bonne partie d'un texte de l'abbé Découvement que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai déjà fait une retraite en France, à Troussure, chez le chanoine Caffarel. Et je m'inspire aussi d'un texte de Rouvière, avec des réflexions bibliques et théologiques à propos du prince des ténèbres, mais aussi, j'ai relu le livre de Richard Bergeron, le père Bergeron, franciscain québécois, Dan et Satan, où il y a de très très bonnes choses, particulièrement sa conclusion, et on voit que il ne nie pas l'existence de cet être curieux. J'ai relu aussi de Georges Stavard, ce grand théologien français qui enseigne aux États-Unis, publié chez Desclés Novalis dans la collection L'Horizon du croyant, Satan. J'ai repris aussi le vieux livre de Mgr Christiani dans lequel il y a des choses plus ou moins pénibles, mais aussi de bonnes choses. Présence de Satan dans le monde moderne. Il y a quantité d'autres livres dans ma bibliothèque, j'en ai bien une vingtaine. Et un ouvrage sérieux aussi dans ma bibliothèque que j'ai retrouvé, c'est le numéro 103 de la revue Concilium, la revue internationale de théologie. Très grande revue, avec un beau texte de Skilbeck, le fameux théologien dominicain hollandais que j'ai interviewé en Hollande déjà. Et il y a bien longtemps, ça doit faire près de 30 ans. Et dans ce numéro de la revue Concilium, il dit ceci: s'il est utile de procéder à une identification du diable en le désignant comme la puissance du mal, dont parlent les expressions de la foi dans le Nouveau Testament, il importe beaucoup plus encore de savoir que pour quiconque en est venu à se convertir au Seigneur, eh bien cette puissance du mal a été détrônée par l'œuvre du même Seigneur. N'oublions jamais ça, que le Christ a vaincu. Il est le vainqueur. Et comme il écrit le père Skilbeck au début de cette revue, il dit: c'est pourquoi ce numéro contient une réflexion théologique concrète qui montre que la victoire de Jésus sur tout ce qui peut s'appeler le diable ou la puissance du mal constitue en tout cas, pour le chrétien, une garantie d'espérance. Oui, nous sommes dans l'espérance, Il ajoute: il n'y a aucune raison de céder à l'angoisse. Aucune raison de céder à l'angoisse. Et il cite le texte de l'Apocalypse de Saint Jean. Il fut précipité le grand démon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan. Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ. Et il termine par ces cinq mots que j'aime beaucoup. Croire, c'est croire en Dieu. Et avez-vous déjà remarqué que dans le credo que l'on récite le dimanche en particulier, le « Je crois en Dieu », on ne dit jamais que l'on croit en Satan, on croit plutôt en la Trinité, en l'Église. en la résurrection, au pardon des péchés, on croit à des choses admirablement positives. Mais il n'y a pas de doute que le, comme dit le père Spic, dominicain français, que il n'y a aucun doute que Satan existe. Il suffit de lire le Nouveau Testament. Mais beaucoup de nos contemporains s'intéressent énormément au diable, aux diableries. On voit les succès de tous ces films où il en est question, comme L'Exorciste d'un café fureur dans les années 70. Il y a eu l'accroissement du nombre de personnes qui se disent envoûtées. C'est souvent, la plupart du temps, des malades. Et alors, ils courent les désenvoûteurs, et on en a de plus en plus dans le monde, et on en a même à Montréal. On voit les annonces dans les journaux, c'est invraisemblable. Il est question de désensorceleurs. Il y a de nombreuses études qui ont été faites aussi sur les messages subliminaux, dont sont truffés beaucoup de morceaux de musique rock, et qui invoquent explicitement le diable. Alors, il y a de plus en plus de gens qui croient à ce diable au point d'appartenir à des églises, qu'on dit églises de Satan. Ça existe aux États-Unis en particulier. Il paraît que ça existerait ici aussi, de façon cachée. Il y en a beaucoup qui croient absolument pas à la réalité de Satan. Je me le suis fait dire il y a quelques jours par une dame qu'elle ne croyait pas du tout à Satan. Ils pensent que les cas de possession diabolique dont parlent les évangiles doivent être tous interprétés à l'aide des connaissances actuelles en psychiatrie. Alors, le démoniaque de Gérasa, n'est-ce pas, dans l'Évangile, il est présenté comme délivré par le Christ de sa légion de démons. On trouve ça dans l'Évangile de Marc, dont je vais vous parler, Saint-Marc, cette semaine. Ça va être sa fête. Alors, on se dit, est-ce que c'était pas tout simplement un malade que Jésus a guéri de son épilepsie? Alors, d'une façon plus générale, chaque fois qu'il est question dans la Bible des puissances du mal, il faut y voir une simple, peut-être, personnification de démons intérieurs, dit-on, qui nous habitent, tous plus ou moins. Ces espèces de nœuds de vipère, n'est-ce pas, dont François Mauriac, qui a écrit justement un roman, Nœuds de vipère, tu sais, nœuds de vipère en, à l'intérieur de nous, les problèmes psychologiques que beaucoup de gens ont, que de gens se compliquent la vie au lieu de s'abandonner dans le cœur de Jésus, d'aimer Jésus, de l'aimer, s'abandonner et cesser de se créer des problèmes qui n'en sont pas. Grand Dieu, abandonnons-nous, même à la maladie, même à la mort. On s'abandonne à l'hiver, abandonnons-nous actuellement au printemps, à l'été. Abandonnons-nous aux belles choses, à ce souffle de Dieu qui nous nourrit, qui nous ravigore, à cet Esprit Saint qui nous veut joyeux, libre, plein de désir d'aider les autres et de les aimer autour de nous, puis d'apprendre à s'aimer soi-même. Alors, on pense souvent que les démons, ce ne sont que nos problèmes. Tous ces problèmes qui nous poussent à l'orgueil, à la jalousie, à la luxure. Alors, ils disent qu'il serait grand temps de démythologiser tout ce langage biblique. Il y a une part de vérité chez eux. Je crois qu'ils ont bien raison dans bien des cas. Dans les anciens rituels du baptême, souvenez-vous, hein, des enfants et des adultes, le diable était souvent interpellé. Dans le baptême des enfants, on en parlait 10 fois, puis dans le baptême des adultes, 20 fois. Le prêtre disait « Sors de lui, esprit immonde ». Dans le nouveau rituel du baptême des enfants, il ne le serait plus que 2 fois. Où l'on parle plutôt d'ailleurs de péché, du péché. C'est-à-dire de cette absence d'amour, de ce regard qui n'est pas tourné vers Dieu et vers l'essentiel. Alors ce n'est plus à Satan. Non, ce n'est plus à Satan qu'on renonce, mais au péché. Et ces 2 mentions du diable, on pourrait se demander si c'est de trop encore. Un petit enfant avec le diable en lui, c'est toujours inquiétant. On voit ces petits enfants, tout jeunes, On les baptise aujourd'hui à quelques mois, ils sont si beaux. Est-ce que ce ne serait pas opportun d'éliminer complètement le diable dans la, présentation du message évangélique, disent certains? Il y a un texte de la Congrégation de la doctrine de la foi qui réaffirme la doctrine de l'Église. C'est sous le titre « Foi chrétienne et démonologie ». Ça date de 1975. Et si l'existence de Satan et des démons, si ça n'a jamais fait l'objet là, d'une affirmation explicite du magistère, il faut rappeler quand même qu'elle représente une donnée de la foi qui est rigoureusement contenue dans l'enseignement de l'Évangile, puis dans la foi vécue. Hein. Rappelons-nous qu'il y va d'une foi constante de l'Église, hein, depuis toujours, hein, de sa conception de la rédemption, puis au point de départ de la conscience même de Jésus. Évidemment que cette affirmation, ça ne doit pas nous empêcher de comprendre que nous avons une responsabilité personnelle et qu'on ne peut pas attribuer nos fautes aux démons. Nous sommes libres. Et le démon n'est pas si fort que l'on pense. Il ne s'agit pas non plus de voir partout. Cessons de nous imaginer qu'il est partout. Mais c'est Dieu qui est partout. Ce sont ses anges qui sont partout auprès de nous. Dès qu'on parle d'ailleurs d'une intervention diabolique possible, il ne faut pas oublier que l'Église fait toujours place, comme pour le miracle, à toute une exigence critique. Que d'exigences critiques devant un miracle à Lourdes. J'entendais à la télévision l'autre jour un protestant qui disait qu'à Lourdes, il n'y avait pas eu de miracle. Mais mon Dieu, cet homme n'a pas étudié du tout les miracles, en particulier les grands miracles que je vous ai racontés ici à cette émission de rencontres spirituelles diffusées tous les jours, n'est-ce pas, comme vous savez, du lundi au vendredi à Radio Ville-Marie. Il faut laisser place à la recherche, il faut écouter ce que des savants ont à nous dire, il faut être calme. Et c'est un fait. L'Église reconnaît qu'autrefois, il y avait eu beaucoup de naïveté à craindre de rencontrer des démons au carrefour de toutes nos pensées. Mais les démons ne sont pas au carrefour de toutes nos pensées, mais non. Mais aujourd'hui, des fois, on dirait que les rapports mystérieux de l'âme et du corps, et puis du surnaturel, et puis du préternaturel, puis de l'humain, de la raison, puis de la révélation, là, et nos méthodes sont parfois un peu trop résonantes et nient les faits concrets, car il y a des faits concrets. La Bible en parle du démon, de Satan, comme d'un être personnel. N'oublions jamais ça. Qui veut nuire à l'homme, qui dans le monde mène un combat contre le règne de Dieu, contre les saints, pour y faire triompher son propre règne. Et les termes dont la Bible le nomme indiquent bien que Satan est un être personnel et pervers. Satan l'appelle l'adversaire. La Bible appelle le diable le diviseur, l'ennemi, le prince de ce monde. On trouve ça dans Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, dans Saint Jean, dans la première aux Thessaloniciens, dans Matthieu, etc., etc. Dans le fameux récit de la tentation, Jésus affronte un personnage qui est nettement identifié. Ce n'est pas un mythe. Et l'apôtre Jean, en opposant les enfants de Dieu et les enfants du diable dans sa première épître au chapitre 3, l'apôtre Jean considère bien comme deux êtres personnels les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et saint Paul met en garde les chrétiens contre celui qui se camoufle en ange de lumière, car souvent, le démon se camoufle en ange de lumière. Des personnes qui surgissent et qui, au nom d'une raison éblouissante, nie l'existence de Dieu, ni même l'existence de l'amour, ni même toute valeur aux actions humaines. Il y a là un décortiquage épouvantable de ce qui fait une femme et un homme. Il ne faut pas confondre, évidemment, purement et simplement, le diable et le péché. Ça n'est pas la même chose. Même si dans sa lettre aux Romains, Saint Paul ne parle jamais de Satan, mais seulement du péché. Il ne faut pas oublier. Saint Paul insiste beaucoup plus sur le péché, qui est ce drame de l'être humain qui rejette l'amour de Dieu. C'est ça, le péché. C'est rejeter l'amour de Dieu pour aimer des futilités, des idioties qui nous détournent du bien, qui nous détournent de faire du bien. Évidemment que le diable, d'après les gens les plus sérieux, n'est pas une personne comme les humains, mais un être libre, comme une personne, quoi. Un être qui appartient au monde des réalités invisibles créées par Dieu. Il n'est pas un Dieu. C'est une personne, ou c'est un ensemble de personnes, des réalités invisibles comme les anges, et qui, par refus de sa condition de créature, est devenu mauvais. Vous savez, quand les hommes refusent d'avoir été créés eux-mêmes par Dieu, ils risquent souvent de devenir mauvais et de ne plus respecter la valeur de la vie humaine. On a pu le voir en régime communiste. On a pu le voir chez Hitler. On a pu le voir chez Pol Pot au Cambodge. Et dans quantité d'autres milieux, et en Amérique du Sud, chez les capitalistes abominables, qui ont assassiné tant de prêtres et de militants d'Action catholique et de paysans de toutes sortes et d'Amérindiens, afin de s'emparer de terres ou de régler leurs problèmes économiques d'une façon abominable, sans compter les grands trafiquants de drogue. Et quantité d'autres. Alors, cet être ou ces êtres veulent entraîner les hommes dans leur malheur. Ils veulent en somme les tuer. C'est Saint Jean qui dit au chapitre 8 que Satan est l'homicide, un assassin, quoi. Le démon veut diviser les êtres humains avec eux-mêmes, puis de les diviser entre eux. Que de gens ne s'aiment pas, et pourquoi? Ils se laissent obnubiler par des paroles stupides qui sont parfois énoncées par des gens qui les entourent. Des parents qui malheureusement vont dire à leurs enfants « Tu as toujours été stupide et tu le seras toujours, j'ai aucun espoir en toi. » C'est abominable. D'ailleurs, étymologiquement, le mot « diabolos »,« diable », veut dire « celui qui divise ». À côté de cette puissance personnelle, qui est toujours nommée au singulier, la Bible mentionne aussi les démons, dont Satan est le prince. On voit ça dans Matthieu chapitre 12. Et Jésus parle du feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est très compliqué et difficile d'accepter que ce soit éternel. L'apôtre Paul, lui, indique aux chrétiens quels moyens, quelles armes on doit utiliser pour vaincre ceux qu'il appelle les régisseurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Faut pas oublier ce qu'affirme le quatrième concile de Latran, que le diable n'est pas un dieu. Satan n'est pas un pouvoir très loin de là comparable à celui de Dieu, à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable et les autres démons ont été créés par Dieu, dit le concile de Latran. Ils ont été créés naturellement bons. Mais ce sont eux qui, d'eux-mêmes, se sont rendus mauvais. Quant à l'homme, il a péché à l'instigation du diable. Et vous allez voir que c'est pas toujours le diable. C'est souvent notre imaginaire, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos faiblesses. c'est parfois aussi l'environnement dans lequel nous nous plongeons. Mais il faut reconnaître que l'Évangile utilise parfois l'expression « esprit impur » pour désigner des maladies, des infirmités que Jésus guérit. Hein? Alors, il ne faut pas confondre, donc. Luc écrit, par exemple, au chapitre 6, « Ceux que tourmentaient les esprits impurs étaient guéris, voyez-vous. » Et plus loin, il cite Marie, appelée la Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons, parmi les femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Esprit mauvais et maladie. Et Jésus donne pouvoir à ses disciples sur les esprits impurs de façon à les expulser et à les guérir de toute maladie. Alors, on associe souvent la maladie et les esprits impurs. C'est un esprit qui vient de chez les Juifs. Et il faut dire que les Juifs étaient, dans leur religion, infiniment plus libérés que les religions autour d'eux qui voyaient des esprits impurs partout. Je me souviens, dans un voyage en Afrique, au Cameroun, les gens me disaient que dans les arbres, il y avait des esprits impurs. Un catéchiste me disait, « Vous savez, Monsieur Raymond, je ne pourrais pas prendre ma voiture. » Il avait une belle voiture Ford, car il était champion de boxe. « Je ne pourrais pas la conduire. Une feuille est tombée sur l'aile. Je suis sûr que c'est un signe que l'esprit de l'arbre me dit de ne pas prendre ma voiture. » Alors, ces gens-là voient des esprits partout. Hein, et des esprits souvent négatifs. Ou des esprits annonciateurs de drames. Et combien de gens aujourd'hui voient dans toutes sortes de chiffres d'affaires absolument abracadabrantes, des signes de forces occultes. Nous sommes plongés actuellement dans un monde de superstition que l'on voit à la télévision qui est aberrant. Aberrant. Il n'est pas trop présomptueux de penser donc que les évangélistes suivaient l'opinion de leur temps. Bon, ils attribuent aux démons des phénomènes qui relèvent de troubles psychiatriques. Disons-nous bien ça. Et ne faisons pas comme eux, c'était des évangélistes qui vivaient il y a 2000 ans. Ils avaient leur perspective à eux, de leur époque. C'était des hommes qui ont écrit des choses qui sont pas toujours justes, mais qui sont le reflet de la civilisation environnante. Et nous sommes ainsi amenés à distinguer donc les guérisons par lesquelles Jésus libère un malade, des esprits qui le tourmentent et les exorcismes par lesquels Jésus expulse Satan d'un possédé, là, on en rencontre plusieurs, il faut faire attention. Mais je ne voudrais jamais éliminer la présence de Satan dans les évangiles, il n'en est pas question, et les plus grands théologiens aujourd'hui, les plus grands exégètes, les plus sérieux dans l'Église catholique, comme dans d'autres églises, reconnaissent qu'il y a là une puissance des ténèbres, les princes des ténèbres. Les esprits impurs dont Jésus délivre les malades, mentaux, ne sont d'ailleurs pas sans rapport avec Satan. Hein. Satan peut les utiliser comme des instruments de son règne, ça peut arriver. Quand les 72 disciples reviennent tout joyeux de leur mission, ils s'écrient, « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est cela que les 72 disciples disent. « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus de répondre, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Est-ce que Jésus a bien prononcé ces paroles? Et je le croirais que oui. Il y a la différence de Dieu. Satan ne peut pas habiter dans notre cœur. C'est Dieu qui habite dans notre cœur. C'est Jésus qui dit, « Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons en lui, nous y ferons notre demeure. » Disons bien que Satan n'habite pas en nous. Jamais. Mais jamais. Il ne peut pas davantage agir directement sur la volonté de qui que ce soit, ni même contre la volonté de qui que ce soit. Il n'a pas ce pouvoir. Si Satan, selon la tradition chrétienne, peut nous tenter, s'il peut exercer une influence sur notre sensibilité et notre imagination, mais il utilise des intermédiaires. Hein? Il utilise nos propres désirs, nos blessures psychologiques, un déséquilibre hormonal même, une hystérie, un petit désordre néphrotique, des réalités extérieures. Mais il peut arriver parfois qu'il y ait des cas de possession. Et ça, c'est extrêmement rare, hein. Et il faut distinguer entre l'exorcisme puis le ministère de délivrance. Il faut pas pratiquer des ministères de délivrance à tout bout de champ. Penser que les gens sont possédés. Pour prier, sans doute, avec des gens. Pour les orienter vers Dieu, il faut éviter de voir Satan partout. Le ministère de délivrance s'adresse à un esprit, oui, à une influence mauvaise. Pas nécessairement un être personnel. Lorsque Jésus, dans l'épisode de la tempête apaisée, s'adresse au vent et à la mer en leur disant « Silence, tais-toi », il ne les considère pas comme des êtres personnels. D'ailleurs, c'est en 13 ans, un exorciste de l'archevêché de Paris, le père Gesselin, a reçu près de 20 000 personnes qui pensaient être la proie du malin, ou de l'un de ses subordonnés, comme on dit, c'est ce qu'il écrit. Et elles souffraient presque toutes de troubles psychiques. Mais dans 5 ou 6 cas, dit-il, c'est un homme sérieux, il s'agissait de cas de possession diabolique. Donc ça existe. Et je vous parle donc de Satan. Et Satan peut utiliser parfois le pouvoir, et ça peut sembler curieux de le dire à la fin du 20e siècle, peut utiliser un pouvoir que Dieu lui laisse sur le monde des objets et des corps pour produire des phénomènes bizarres. Très souvent, ce sont des phénomènes qui peuvent être expliqués aujourd'hui par des connaissances que nous avons, qui sont plus grandes, mais on ne les explique pas de façon précise. Les phénomènes psy, et c'est pas facile. C'est parallèle en tous les cas. Il y a eu des manifestations diaboliques en tous les cas au cours des années 1823-24 autour du fameux curé d'Ars, Saint-Jean-Baptiste-Marie Vianney, curé d'Ars dans le sud de la France. J'ai beaucoup étudié cette question, j'ai même interviewé un évêque du lieu là-bas, Monseigneur René Fourré, qui a publié chez Des Clés de Brouwer en 1981, Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Il avait publié un autre livre avant que je ne l'interviewe en 1973 ou 74, je pense que c'est 74, et ça avait été fascinant. Il raconte au sujet du curé d'Ars, et d'ailleurs c'est prouvé, il pensait que les bruits épouvantables qu'il entendait dans sa cure, dans son presbytère, bien qu'il s'agissait de voleurs, qui désiraient dérober probablement les ornements sacerdotaux qu'un vicomte avait offert à la paroisse. Alors le curé d'Ars avait eu l'idée de recourir à quelques jeunes gens pour faire garder son presbytère. Et là, le premier à venir fut André Verchères, originaire de Savigné. Il était fiancé à une jeune fille du pays, Marguerite Lardet. Je donne les détails parce que ça prouve qu'on a les détails. Et devant les juges du procès, il a évoqué le procès de canonisation du curé d'Ars. Il a évoqué en 1864, donc 40 ans plus tard, le souvenir d'une nuit qu'il avait passée à la cure en janvier 1824, quelques jours avant son mariage. Voici ce qu'il a déclaré. « Je causais et je me chauffais avec monsieur le curé jusqu'à 10 heures. » À ce moment, j'allais me coucher dans la chambre qui m'était destinée. Vers 1 heure du matin, j'entendis secouer avec violence la poignée et le loquet de la cour. En même temps, j'entendis comme des coups de massue contre la même porte. Il retentissait dans le presbytère comme le bruit du tonnerre. Je sautai à bas de mon lit, saisis mon fusil et ouvris la croisée pour voir ce que c'était, et je n'ai rien vu. Le curé d'Ars, de son côté, n'avait rien vu lui non plus. Mais une nuit qu'un vacarme étourdissant se faisait de nouveau entendre à l'entrée du presbytère, bien, Saint-Jean-Marie Vianney ouvre précipitamment la porte, persuadé qu'il va surprendre des hommes en flagrant délit de tapage nocturne. Il n'est pas prêt à croire que c'est le diable, lui. Et que voit-il? Que voit-il? La neige qui tombe. Et pas la moindre trace de pas sur la neige. Alors désormais, le curé est rassuré. Alors il dit au jeune homme, « Bah, ce n'est que le diable. » Le grappin, comme il disait. Il s'en moquait. Et c'est l'attitude qu'il faut avoir. Ça n'a aucune importance. Il renvoie définitivement ses gardes.
Et il s'habitue peu à peu à cette sorte de fond sonore qui accompagne souvent ses heures de sommeil, nous disait Monseigneur Fourré, l'évêque du lieu, qui a étudié très près toute cette question. À qui serait tenté de douter de l'existence de Satan pourrait conseiller une lecture attentive de la vie des saints. Et on finit par constater que tous, ils ont eu maille à partir avec le diable. Pensez à Thérèse d'Avila. Elle reconnaît que rarement il s'est présenté à elle sous forme sensible, mais que souvent elle l'a vu. Oui, elle l'a vu comme quelqu'un de présent. Mais elle ajoute sans percevoir aucune forme. Elle a une très grande finesse psychologique, Thérèse d'Avila. Alors elle dit, elle a vécu il y a quelques siècles, hein, c'est au 16e siècle, très grande docteur de l'Église, hein, c'est une des plus grandes mystiques de toute l'histoire, je vous le rappelle. Alors Thérèse d'Avila se rendait compte, elle, dans sa finesse, que les mouvements désordonnés de son cœur étaient les meilleurs alliés du démon chez elle. Voilà, c'est ça, il suffit d'établir son cœur dans la paix. Mais elle savait distinguer ses alliés naturels des manœuvres de Satan lui-même, de tout ce qu'il entreprenait pour essayer de la détourner de la pratique de l'oraison. Tantôt, disait-elle, il se tapit, tantôt, il se démasque, il est rageur. Une fois, raconte Thérèse d'Avila, il fut 5 heures à me tourmenter par des douleurs si terribles et un trouble intérieur et extérieur si violent qu'il me semblait ne plus pouvoir les soutenir. Mais sainte Thérèse d'Avila n'a pas peur. Il faut pas avoir peur. Enlevons-nous la peur, hein? Elle sait que son adversaire ne peut agir que sur le corps et l'imagination seulement, et qu'il ne peut rien sur la demeure la plus secrète de ce qu'elle appelle son château intérieur, là où habite Dieu en nous. Les saints, d'ailleurs, nous allons le voir, utilisaient toute une tactique dans leur combat contre Satan. Mais nous ne les voyons pas s'attarder, eux, à réfléchir sur sa nature, puis sur les modes d'action. Pas du tout. Ils sont simples, les saints. Ils laissent Satan là où le Seigneur l'a placé. À la dernière place de sa prière, dans le Notre Père, délivre-nous du malin. C'est la fin du Notre Père, ça. Il n'avait Dieu, les saints, que pour celui qu'on n'a jamais fini de contempler et en qui on doit mettre sa confiance, qui est Dieu le Père. C'est saint Paul qui dit « Revêtez l'armure de Dieu » pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons lutté, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Alors, il n'y a donc pas de vie chrétienne sans combat jusqu'à un certain point contre Satan. Mais ce combat, ça se fait dans la confiance, hein? Jésus nous exhorte souvent la confiance envers son Père. Il le dit, hein? « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. » Oui, Dieu nous a donné le royaume, mais il nous invite, par contre, à nous méfier de Satan. Il dit aussi, c'est dans Saint-Luc, Jésus, « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. » Le craindre, ça ne veut pas dire prendre peur, là. Non, restons dans la confiance et soyons simplement prudents. Et à la suite des pères du désert et de tous les saints, il suffit d'apprendre l'art de repérer la tactique du diable pour mieux en triompher. Pensons à Ignace de Loyola, qui a bien établi des règles de discernement des esprits pour nous aider à ne pas confondre ce qui est de l'Esprit Saint, et puis les suggestions du malin, c'est pas du tout la même chose. Hein? Ce que l'Esprit Saint nous dit, souvent on nous dit, c'est pas vrai, c'est pas ça. Pourtant, il faut être simple. Simple. L'Écriture sainte nous en parle abondamment de la réalité de Satan ou des démons. Les saints ont tous expérimenté les assauts que ces êtres nous livrent ici et là. Mais la ruse essentielle de Satan est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Dans toutes les guerres, on le sait, les ennemis essaient toujours de se camoufler pour surgir dans une embuscade. Hein? Alors, il ne s'agit pas d'être obsédé par la présence de Satan. Je ne saurais trop le dire, ça fait au moins 10 fois que je vous le dis. Mais il faut savoir qu'il existe, tout simplement. Et c'est tout. Il se déguise parfois en ange de lumière, je vous l'ai dit, nous inonde de sa propagande mensongère. On le voit aujourd'hui, des sortes de slogans trompeurs. Les sophismes invraisemblables. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit « Il n'y a pas de vérité en lui, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Voici quelques exemples. On dit que si on pratique certains jeûnes, certaines petites pénitences, on dit « Tu vas y laisser ta santé. » Si on dit « Je veux vraiment me convertir et aller vers Dieu, et tous les jours le prier, et tous les jours aller à la messe, et tous les jours recevoir le corps du Christ vivant, et tous les jours m'occuper des pauvres, et tous les jours faire quelque chose pour Dieu », on dit « Ben voyons, c'est de l'évasion mystique, arrête-toi. » Si on veut pratiquer l'oraison, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, on dit que c'est réservé aux contemplatifs, faites attention. Si on se confesse, on dit, ben voyons donc, c'est fini. Tu vas développer des scrupules, c'est pas nécessaire. Si on veut être bon pour les autres et s'en occuper, être généreux et leur donner tout ce qu'on possède, on dit, faut pas être poire. Pourtant, va, vends tout ce que tu possèdes. C'est un appel, c'est un conseil. Ou à tout le moins, comme un homme très riche qui pensait donner tout au pauvre, Mère Teresa lui avait bien dit à Calcutta, non, gardez votre usine, gardez vos responsabilités et soyez bons pour vos employés. Alors il faut opposer à toute cette propagande qui nous envie sur tous les côtés, dans les médias en particulier, une contre-propagande puisée dans l'Évangile. C'est la riposte de Jésus au désert, nous relisons sa tentation au désert, c'est très beau cette scène, très très beau, hein? Saint Paul aussi nous exhorte d'utiliser le glaive de l'esprit, dit-il, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand on retourne aux paroles de Jésus, on sait comment vivre. Il faut savoir comprendre. Quand on nous dit « n'exagère pas », il faut dire « soyez parfait comme votre Père du ciel », c'est Jésus qui nous le dit. Si on nous dit « tu vas te perdre en Dieu, là, tu vas te devenir complètement capoté », mais il faut faire attention aussi, c'est sûr. Mais on peut dire, cette parole qu'on retrouve dans la Bible, « votre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Quand on nous dit « ne sois pas trop bon », ben il faut relire cette parole de Jésus, « pardonne 70 fois 7 fois ». Combien de gens me disaient que j'étais trop bon avec mon fils? Donc ce sera bientôt le 2e anniversaire du décès, à 40 ans. Bien, j'essayais de toujours pardonner. Il me le disait, « Ah, papa, je le sais, tu vas me pardonner encore. Je le sais, tu vas me pardonner. » Il était peut-être porté en abuser les derniers temps, mais c'est qu'il était l'esclave de la drogue. Cette drogue abominable, qui nous vient, je pense, vient du père du mensonge, comme Jésus l'appelle. Ceux qui vont de ce qu'on appelle, c'est Saint Ignace qui parle de ça, Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui dit, ceux qui vont de péché mortel en péché mortel, bien, le démon les laisse tranquilles, ceux-là. C'est ceux qui travaillent avec ardeur à se purifier de leur péché, de leur éloignement de Dieu, et qui veulent vraiment aimer Dieu et répondre à son amour, et qui vont de mieux en mieux dans le service de Dieu, bien là, Saint Ignace prétend que le mauvais esprit cherche là à mordre leur âme, dit-il, puis à les attrister. Ben oui, à les attrister, à leur faire dire « Oh, ça vaut pas la peine, c'est bien fatigant, je n'aurai pas la santé, j'en peux plus, ça mène à rien. De toute façon, ça va pas mon affaire, et puis je devrais arrêter, et puis c'est pas la peine, et puis etc., etc. Hein. » Ces pensées-là viennent peut-être aussi d'un mal hormonal, d'une fatigue, d'un manque de bonne digestion, le foie est malade, le manque de sommeil, etc. Faut pas voir des esprits mauvais partout. Il y a peut-être un mélange aussi. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'aimer Dieu. Le propre du bon esprit, dit Saint Ignace, touche l'âme doucement, légèrement, suavement, comme une goutte d'eau qui pénètre une éponge. Bien oui, l'Esprit Saint, c'est comme ça. Il faut se mettre sous son emprise. Dieu est en effet un Dieu de paix. Et le fruit de l'Esprit Saint qui nous envoie, c'est la charité, la paix, la joie, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. C'est dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, relisez ça, Galates 5, 22. Quand la perspective de faire quelque chose s'accompagne dans le fond de mon cœur d'une grande suavité spirituelle, il y a de grandes chances que ce désir vienne du bon esprit, de l'Esprit Saint. Ce qui trouble au contraire et qui inquiète chez une âme qui est en progrès, là, qui va bien, mais ça peut venir de ce qu'on appelle le malin. Il attaque l'ennemi, le malin, sur son point faible. Nous avons tous des points faibles, et ça peut arriver. Mais je crois que la meilleure source du bien-être, c'est de bien manger, de bien dormir, de bien prendre l'air, de soigner sa santé. Et si nous sommes malades, de bien observer ce que nous devons faire. C'est un devoir d'État, de se guérir, d'être simple avec son corps et de le respecter. C'est un don de Dieu. Nos points faibles, ils existent. Alors, il y a des slogans de l'ennemi qui vont nous attaquer parce qu'ils vont penser que on se prend pour quelqu'un d'autre si on veut suivre certains conseils de l'Évangile. Et alors, on entend au fond de nous, « ces conseils-là, c'est pas pour toi. » Être chaste, être pur, être obéissant, être généreux, être charitable, pardonner toujours, etc., etc. Mais voyons donc, tout ça, c'est puéril. Tu es au-dessus de tout cela, on entend ça au fond de nous-mêmes. Hein? Tu peux te passer même de suivre des conseils spirituels. Fais pas, prends pas de résolution. Puis cesse de faire des lectures spirituelles tous les jours, mon Dieu. Il faut être au courant de tout ce qui se passe. Écoute le téléjournal 3 fois dans la journée. Lis 3 journaux, lis 3 revues. Babille sur le temps qui fait, etc. Et ne te confesse plus, c'est vieux jeu tout ça. Hein? On entend ça au fond de nous. Tout ça, d'où ça vient? La bêtise humaine en grande partie. Peut-être de petits démons roses. Il faut savoir prier aussi, il faut partager, il faut jeûner. Hein? Puis il faut avoir des alliés. Hein? Oui, il faut penser, invoquer d'abord Notre-Dame, Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus, la prier tous les jours. Et pourquoi pas prier son saint patron si nous avons un nom chrétien? Le prier ou prier son ange gardien, pourquoi n'aurions-nous pas un ange gardien? C'est une vieille tradition qui est très belle, très belle. Et si nous n'avons pas, nous pouvons certainement parler aux anges qui nous entourent, car Dieu nous habite. Et sans doute que les anges virevoltent autour de nous, comme autour d'un tabernacle ou d'un ostensoir. Nous sommes des tabernacles et nous sommes des ostensoirs. Et si nous sommes fiers de ce que nous sommes en tant qu'êtres créés par Dieu, aimés par Dieu, qui nous habite, c'est la source de toutes les joies, hein? En somme, il faut partir au combat avec une âme de victorieux. Nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Le Christ, je vous l'ai dit au début, a vaincu Satan. Et Dieu est heureux lorsque, tout en prenant au sérieux l'existence de Satan, nous ne sommes pas saisis de panique. Laissons le diable où il est, à la dernière place du Notre Père, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans le Notre Père, c'est la dernière chose, hein, délivre-nous du malin. Pour le laisser aboyer. Comme un chien qui aboie auprès d'une taupe, on s'en occupe pas. Où se réfugier? En s'appuyant sur les épaules de Jésus-Christ. On se réfugie dans les bras de Jésus, sur ses épaules, en marchant avec lui bras dessus. C'est la méthode chère à Saint Jean de la Croix. J'ai ses œuvres devant moi, puis il dit, qu'il y a deux manières de résister aux vices et d'acquérir les vertus, et l'une est commune et moins parfaite. Elle consiste à vouloir résister à quelques vices ou péchés ou tentations au moyen des actes de vertu qui s'opposent à ce vice, à ce péché ou à cette tentation, et qui les détruisent. Et ainsi, à la suite de quelques dommages reçus ou de paroles injurieuses, je ressens mon âme le vice de, ou la tentation de l'impatience, ou de l'esprit de vengeance. Alors je résiste alors avec quelques bonnes considérations, comme celle de la passion du Seigneur. Ou bien, je considère les biens qui s'acquièrent par la souffrance et la victoire sur soi-même. Ou bien, je pense que Dieu a ordonné que nous souffrions, car cela nous est très avantageux. Oui, oui, par ces considérations, je m'excite à supporter, aimer et accepter cette injure, cet affront, ce dommage, et cela pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est ce qu'écrit saint Jean de la Croix, à la même époque que saint Thérèse d'Avila. C'est dans ses œuvres complètes, ça, c'est à la fin, aux pages 1024, publiées, mon Dieu, chez des clés de Brouwer encore. Puis il faut pas dramatiser nos défaites, hein. Pour faire tout un plat parce qu'on a commis une faute, voyons donc. Nous sommes pardonnés dès que nous tournons vers Dieu. Quand on demande pardon à notre Père, et qu'est-ce que c'est que dit Thérèse de l'Enfant Jésus là-dessus, Thérèse de Lisieux, elle dit, on se tourne vers notre Père et on lui demande pardon, je vais me faire punir par quoi? Par un baiser. Quelle punition nous accorde Dieu? Un baiser, il nous embrasse. Puis il faut aussi que si le monde entier, dans un certain sens, est dans la main du mauvais, selon saint Jean, n'est-ce pas, qui est l'apôtre de l'amour, c'est une affirmation qui serait bien pessimiste si l'on oubliait qu'elle nous incite à nous remettre avec bien plus de confiance encore dans les mains de Jésus, notre Sauveur. Jésus qui est venu nous délivrer de la main de notre ennemi, qui est venu nous conduire au chemin de la paix. On trouve ça dans saint Luc, chapitre 1, versets 73 et 79. Notre religion est une religion de confiance et d'amour, d'enthousiasme, pas de crainte. Mais si terribles que soient les nouvelles qu'on voit dans les journaux sur les cultes sataniques, les crimes, les meurtres d'enfants, ce sont des cas exceptionnels. Il y a un déferlement, évidemment, de pensées mauvaises qui sont transportées. Mais il y a aussi tellement de belles choses que Dieu fait faire à son Église et aux grandes églises chrétiennes et même à d'autres religions. Et oui, il y a du bien qui se fait, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et nous sommes capables de nous unir à tous ceux qui font du bien, en ayant confiance, en sachant que Dieu est le grand vainqueur. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous appuie constamment. C'est lui qui nous fait vivre. C'est lui, oui. Et oublions les cas tragique et très exceptionnel de possession diabolique, que je ne veux pas vous en parler, je sais que ça existe, il y a des preuves concrètes, mais je préfère passer outre, ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu nous aime, que nous sommes appelés à l'aimer, d'un cœur toujours nouveau, et que si nous nous donnons vraiment à lui, si nous nous dirigeons totalement vers lui, nous sommes à l'épreuve de tout au sein de l'Église. Nous sommes dans la paix avec lui, dans l'amour. Et c'est là qu'est la joie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Rien ne sert de s'intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressant. Rien ne sert de parler outre mesure de quelqu'un qui mène au néant. Rien ne sert de prononcer son nom davantage. Mieux vaut revenir au Saint-Esprit.